Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, l'émission de Radio Immo où on ne parle pas d'immobilier, c'est bien sa particularité et c'est pour ça qu'on l'aime. Et pour ne pas parler d'immobilier en cette fin d'année, eh bien je suis comme toujours en compagnie de Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna.
Comment ça va en ce mois de décembre ?
Très bien, bientôt les fêtes, avec une belle émission en perspective aujourd'hui.
Et mais oui, aujourd'hui nous allons parler de l'homme.
On va parler de l'homme avec une personne qui en parle, l'homme historique, l'homme du présent, l'homme d'avenir. On va parler de l'homme avec le directeur du Musée de l'Homme.
Bonjour.
Alors, c'est ce qu'on appelle la cancel culture, que l'on peut traduire par culture de l'effacement. En résumé, c'est une tendance à gommer de notre mémoire les faits ou les personnes qui ne correspondent plus aux idéaux du moment. Une sorte d'hygiénisme moral qui se résume par « tu me déplais, je te supprime ». Virulente aux États-Unis, cette vague de culture de l'effacement s'insinue également dans bon nombre de pays, dont la France, via des actes de vandalisme ou des demandes pour déboulonner des statues de personnages historiques, Colbert devant l'Assemblée nationale, ou encore Victor Schleicher en Martinique. Alors, s'il est vrai que cette culture de l'effacement n'est pas un phénomène nouveau, il n'empêche qu'à notre époque, Internet et les réseaux sociaux démultiplient et diffusent largement les germes de cette tendance. La constante de ce phénomène, c'est qu'il s'agit à chaque fois de refaire l'histoire, celle avec un grand H, et de réécrire la mémoire collective. Histoire, mémoire, mais aussi civilisation, avenir, culture, tels sont les thèmes que nous allons aborder dans cette nouvelle émission en présence d'un invité dont le métier, je le disais, consiste à se plonger et à mettre en scène le passé pour mieux expliquer le présent et préparer l'avenir. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour André Delpech.
Oui, bonjour.
Nous sommes très honorés de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors pour nos auditeurs, et nous le disions, vous êtes depuis 2017 le directeur de ce grand musée parisien qu'est le Musée de l'Homme, après avoir été responsable des collections des Amériques au musée du Quai Branly. Alors nous avons coutume d'entamer cette émission par un court extrait sonore. Et évidemment, nous n'avons pas réussi à trouver des archives sonores des premiers hommes, mais nous y sommes presque parvenus. On écoute ce court extrait.
Ça y est, ça recommence. Vous êtes encore collé à votre jeu débile.
Qu'est-ce que c'est, Spam ?
Darwin Crush Saga. Un truc de sélection naturelle virtuelle où des espèces doivent écraser d'autres espèces.
Oui, enfin maman, on n'est pas non plus complètement addict, hein. Il y en a qui jouent en réseau 24 heures sur 24. Ça se voit que tu connais pas les no-life. Eux, ils sont complètement sortis de la chaîne du vivant.
Vous savez, madame Dotcom, la plupart des mammifères de l'âge de pierre sont déjà convertis à l'évolution 2.0 avant Jésus-Christ.
Et je te rappelle que même toi, tu as ouvert un compte Flashbook.
C'est pas parce que je suis sceptique avec toutes ces paléotechnologies que je suis fossilisée sous 5 mètres de glace comme un mammouth en Sibérie. Votre réseau social des chasseurs-cueilleurs, au moins ça sert à quelque chose. C'est pas comme vos SMS idiots.
Alors vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit bien sûr de la série Silex and the City, cette bande dessinée adaptée pour la télévision et diffusée sur Arte. Et dans chaque épisode, on suit les aventures de cette famille, la famille Dotcom, qui vit en moins 40 000 à peu près avant notre ère. Alors avant qu'on parle mémoire, préhistoire, culture, en préparant cette émission avec Johanna, on s'était dit que l'interview de ce jour était la bonne occasion de dire et de redire que votre musée avait rouvert ses portes, comme cela a été prévu et annoncé sur votre site internet, mais et j'imagine que vous le déplorez, les lieux de culture, comme les musées, restent encore fermés pour au moins 3 semaines. Alors avant que nous plongions dans ce qui fait la singularité du Musée de l'Homme, dans quel état d'esprit êtes-vous, André Delpech?
Ah, nous sommes, comme toutes les institutions culturelles, à vivre une année quand même assez incroyable, qui concerne toute la population. Mais pour nous, effectivement, ce stop and go, de ouvrir, fermer, ne pas savoir quand est-ce qu'on va réouvrir, ça nous complique la vie, bien entendu, et en particulier par rapport à toute notre programmation culturelle. Et puis aussi, comme beaucoup de milieux culturels, on s'interroge sur ce genre de décision. Il me paraît que venir visiter les grandes salles du Musée de l'Homme n'est pas plus dangereux que d'aller au supermarché faire ses courses, surtout en ces périodes de fin d'année, et pareil pour les salles de spectacle. Donc c'est vrai que le milieu de la culture en général souffre particulièrement. Nous avons la chance d'être une institution publique. On s'en sortira, mais beaucoup de métiers qui gravitent autour de nous, eux, sont dans une situation assez catastrophique.
Comment le Musée de l'Homme s'est adapté à ces deux confinements que nous avons connus? Le premier, un peu brusque, le deuxième, bon, On avait quand même quelques doutes avant qu'il arrive.
Oui, alors ben, on s'est adapté par la force des choses, hein, ça, c'est le propre de l'homme après tout, notre histoire, on en parlera tout à l'heure, c'est s'adapter aux circonstances, aux crises climatiques, à toutes les crises sociales qu'il peut y avoir. Là pour le coup c'est une crise épidémique, mais là aussi c'est intéressant de la mettre en perspective. Bon, cela dit, au mois de mars ça a été quand même un coup de massue comme pour tout le monde, hein, c'était totalement inédit. Nous l'impact il était surtout sur ce qu'on appelle notre programmation, c'est nos expositions, notre galerie permanente, on en parlera. Bon, ben, elle est là, elle est fermée, elle rouvre, c'est pas trop un problème. Mais dans le milieu des musées, le problème, c'est les expositions qui se préparent sur 3-4 années, qui font appel à beaucoup de collaborations. On va emprunter des objets qui viennent de toute la planète, on va travailler avec des scénographes, etc. Et c'est prévu pour un temps donné. On avait des ouvertures prévues qu'on a dû annuler. Et puis là, c'est tout le chamboulement d'un agenda. Par exemple, la grande exposition qu'on devait ouvrir au 15 octobre de cette année, aux frontières de l'humain, exactement. Bon, à un moment donné, on a décidé carrément de la basculer d'une année. Mais on fait des acrobaties. Et puis, pareil pour tous les personnels qui sont en contact avec les publics. Le télétravail peut s'appliquer pour une partie de nos personnels, mais pour une large partie, et notamment des gens en contrat à durée déterminée, parfois on a été amené à stopper leur contrat.
Alors, vous êtes directeur du Musée de l'Homme. Un mot de présentation quand même de ce musée que l'on connaît tous, ne serait-ce que par la marque, j'allais dire Musée de l'Homme. Mais quel est-il? Que recouvre-t-il? Qui trouve-t-on en tant que visiteur?
Alors, le Musée de l'Homme est un des sites du Muséum National d'Histoire Naturelle. On regroupe en fait tous les sites du Jardin des Plantes, hein, autour de la Grande Galerie de l'Évolution, la Galerie de Paléontologie, et puis aussi à l'est de Paris, il y a le Parc Zoologique de Paris qui fait partie avec le Musée de l'Homme de cette entité Muséum d'Histoire Naturelle. Le Musée de l'Homme, lui, a une longue histoire. En fait, il a été créé juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il a ouvert ses portes en 1938. Il prenait lui-même la suite d'un ancien palais, dans l'ancien palais du Trocadéro, du musée d'ethnographie du Trocadéro. Et en fait, ce musée créé par Paul Rivet, son fondateur, racontait un petit peu la saga de l'aventure humaine dans toutes ses dimensions. Mais suite à la création du musée du Quai Branly, cher à Jacques Chirac, il y a eu un grand bouleversement des musées parisiens et donc... Il a fallu complètement repenser un nouveau musée de l'homme qui a réouvert ses portes en octobre 2015. Et donc j'ai le bonheur d'en être le premier directeur. Et effectivement, ce musée est assez original et je pense assez unique en France et même sur la planète. On n'est pas beaucoup de musées qui embrassent un petit peu toutes ces histoires de l'humanité.
Alors, vous avez dit dans une de vos interviews, ce musée est celui de l'aventure humaine ancré dans le 21e siècle, du biface au smartphone, un lieu pour redonner sa place à l'humain en lui rappelant d'où il vient. Est-ce que vous pensez que l'homme ne sait plus d'où il vient ?
Je crois que c'est important de rappeler un certain nombre de fondamentaux sur nos histoires. Vous l'avez dit en introduction, je crois qu'on ne peut comprendre que la société dans laquelle on vit à partir du moment où on se projette en arrière. Ça nous permet déjà de relativiser sur un certain nombre d'événements. On pourra parler, par exemple, des maladies, hein, c'est pas nouveau. Hein, rappelons la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale ou la peste noire au Moyen-Âge qui a décimé à peu près la moitié de la population de la planète. Donc déjà, tout ça, ça nous permet de relativiser. Et puis, effectivement, du biface au smartphone, c'est pour expliquer que finalement, l'humain, c'est un petit peu la conjonction, si on résume, d'un cerveau et d'une main, qui nous a amené à être aujourd'hui derrière nos micros et à ce que les auditeurs nous écoutent via Internet et autres. Mais tout ça, c'est la même histoire. Et fabriquer un biface, c'est-à-dire un outil en silex taillé pour aller chasser ou pour dépecer un animal, c'est dans la logique du smartphone. Finalement, on se sert des mêmes doigts, de la même main. On a un corps qui est un corps de primate. Ça, on l'oublie souvent. On est issu du monde animal. On fait partie du monde animal. Et par ailleurs, on a cette technologie qui est envahissante, mais qui n'est jamais qu'une trajectoire qu'a suivi l'Occident et qu'il pourrait y avoir d'autres trajectoires.
On a appris tout ça à l'école, évidemment, mais il est l'heure que vous nous rafraîchissiez un petit peu la mémoire sur la grande lignée humaine, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il est faux de dire que nous sommes les héritiers du fameux Homo sapiens, eux-mêmes héritiers de la lignée des Australopithèques? On remonte quoi, à 4 millions d'années, c'est ça?
Oui, même un peu plus. Alors déjà, vous savez, nous sommes des Homo sapiens. C'est intéressant d'ailleurs que au cours du 19e siècle et début 20e, quand on a dénommé un certain nombre de restes fossiles, on s'est appelé quand même Homo sapiens, donc les hommes sages. Bon, on pourrait en discuter. Et effectivement, on sait en tout cas une chose, c'est que l'humanité est née en Afrique. Ça, c'est un fondamental. Et souvent, sous forme vraiment de slogan, je dis « nous sommes tous africains ». Ça, je crois que c'est important à rappeler. Et le fait est qu'en l'état actuel des connaissances, selon la formule consacrée, on voit apparaître des êtres qui vont être bipèdes, hein, donc qui marchent sur leurs deux pieds, comme nous, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, et il y a 3 à 4 millions d'années. Maintenant, on a peut-être d'autres ancêtres un peu plus vieux, vers 7 millions d'années, mais ces fameux australopithèques, dont le plus célèbre a été surnommé Lucy, un hommage à la chanson des Beatles. Donc, se promènent, si je puis dire, dans l'Est africain il y a 3 ou 4 millions d'années. Ce sont des êtres qui marchent donc comme nous, exactement, mais encore qui ont une tête qui, si on la regardait et qu'on ne connaît pas, ressemble beaucoup plus à une tête d'un chimpanzé ou d'un gorille, puisque les chimpanzés, les gorilles sont nos cousins et très proches, finalement.
Que disent en fait les musées de notre approche, de notre conception de l'homme avec un grand H? Par exemple, le choix du nom d'un musée qui place au centre l'homme, encore une fois avec un H majuscule, est symptomatique. On se souvient en 2006 du débat autour du nom du musée du Quai Branly, que vous connaissez bien pour en avoir été conservateur général. Et au moment de l'ouverture de ce musée, il y avait justement un débat sur la dénomination. Devons-nous l'appeler musée des arts premiers, musée des arts et civilisations? Jusqu'à aboutir, et vous le disiez, c'est son nom actuel, au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Alors peut-être une double question. D'abord, est-ce qu'il est difficile de nommer un lieu culturel dont la matière première est l'homme, l'humanité, la mémoire, l'histoire? Et puis, deuxième question, compliquée, et quel est le rôle et la place de ce genre de musée dans lequel la mémoire est placée au centre, sujet apparemment sensible, en lien avec ce qu'on disait sur la culture de l'effacement au tout début de cette émission?
Moi, c'est un sujet qui me passionne, la notion de différents musées nationaux et de leurs frontières, parce que là aussi, on est fruit d'un héritage. Si vous observez les grands musées nationaux parisiens, en fait, ils portent le nom d'un lieu. Le musée du Louvre, c'est le nom du lieu, c'est le château du Louvre. Le musée d'Orsay, c'est la gare d'Orsay. On va parler du centre Pompidou, mais souvent on dit Beaubourg, qui est le lieu. Et finalement, le Quai Branly a suivi dans cette lignée en s'appelant musée du Quai Branly, du nom du quai des bords de Seine au pied de la tour Eiffel. Je crois qu'au travers de ça, c'est à la fois l'histoire, hein, en tout cas pour les musées anciens. C'est aussi parce que finalement, les ensembles ou les thématiques qu'on agrège dans ces musées, moi je les trouve très contestables et très porteuses d'un regard qu'on peut avoir sur nous. J'ai plaisanté, mais sous forme à la fois sérieuse, dans quelques publications, sur, pour moi, il y a des musées, quelque part, dans notre conception, les musées des civilisés et les musées des barbares. Mmh. Et le Louvre, quelque part, est présenté comme le musée des civilisés, à tel point qu'on y parle de l'Antiquité grecque ou de l'Antiquité romaine, mais on n'y parle pas des Gaulois, nos fameux ancêtres les Gaulois, et on ne les trouve pas au Louvre, on va les trouver au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Donc il y a quand même inscrit, et y compris dans l'éducation, encore un vieux schéma, une espèce de vision évolutionniste, ou forcément, on a cette trajectoire, on serait né quelque part avec l'invention de l'agriculture dans le croissant fertile, puis on serait passé par la Grèce, puis Rome, et on arrive à l'Occident triomphant. Ça, c'est jamais qu'un modèle d'histoire. Et nous, justement, au Musée de l'Homme, on veut montrer la grande diversité sur la planète, des trajectoires historiques, des civilisations, et qu'il n'y a pas une civilisation qui est la plus brillante. On a tendance, le pouvoir de l'Occident au travers de sa culture matérielle s'est imposé à un moment ou à un autre à la planète, mais les autres peuples ne sont pas inférieurs et ne sont pas, et ça c'est aussi le combat qu'on mène, ces notions de race aussi qui peuvent être encore traitées de manière complètement fausse, hein, comme le démontre la génétique tous les jours, c'est aussi d'être un musée engagé qui, en racontant l'histoire, en ne biaisant pas cette histoire, en essayant d'être le plus objectif possible, de voir les côtés tragiques de l'histoire, les côtés sombres de l'histoire, mais aussi les belles choses, d'expliquer aux gens qui nous sommes aujourd'hui, la société française par exemple, de quoi sommes-nous le fruit. Et c'est en composant cette histoire, je pense qu'on arrive peut-être à mieux se comprendre et à mieux vivre ensemble.
Prendre du recul par rapport à notre histoire.
Et ne pas seulement lutter contre l'oubli, finalement, de tout ce qui s'est passé avant, d'où on vient.
Oui, et d'ailleurs, le musée lui-même, le musée de l'homme aujourd'hui, se divise en trois parties, sa galerie permanente. C'est la première partie, on explique qui sommes-nous. Et qui sommes-nous, c'est-à-dire nous, êtres biologiques, donc mammifères. Ne l'oublions pas, on a un corps de mammifère, on est un primate, hein, etc. Donc on a cette biologie de nous-mêmes qui des fois nous pose d'ailleurs des problèmes. On le voit avec des maladies ou des choses comme ça. On est partie de la nature. Et puis être culturel, être religieux, être de langage, être social. Ça c'est la première partie. La deuxième, elle est plus attendue, c'est d'où venons-nous? Où là, on passe toute la saga depuis les Australopithèques. en passant par ce qu'on appelle Homo erectus, la sortie d'Afrique, hein, l'homme qui se répand sur la planète, et pour arriver à des noms que le grand public connaît, l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, etc., et jusqu'à nous. Et la dernière partie, c'est où allons-nous ? Parce que ça aussi, c'est, je pense, l'originalité de ce nouveau musée de l'homme, c'est de parler du présent et aussi d'aborder les questions du futur dans toutes les dimensions, aussi bien le côté environnemental, la pollution, les problématiques de réchauffement climatique, et puis tous les débats sur la génétique, sur les modifications qu'on peut faire sur l'humain, l'intelligence artificielle, etc. Donc on essaye, c'est très ambitieux, un peu trop peut-être, mais on brasse toute l'histoire, si je puis dire.
Alors on voit bien qu'en effet c'est un musée d'ouverture et d'éclectisme, mais quelle est la place justement de votre musée en lien avec les problématiques actuelles d'enjeux sur le climat ou de préservation de la biodiversité? Dit autrement, comment est-ce qu'un établissement comme le Musée de l'Homme peut contribuer au débat actuel sur ces sujets si importants pour la préservation de notre planète et donc de l'homme et de toutes les espèces vivantes? Est-ce que vous avez une thématique particulière liée à ces sujets, à l'émergence désormais plus que dominante, et c'est une bonne chose, de l'environnement?
Oui, alors de ce point de vue-là, c'est aussi tout l'avantage d'être un des sites du Muséum National d'Histoire Naturelle, puisque cette biodiversité en danger, on en parle surtout et aussi bien au Jardin des Plantes qu'au Musée de l'Homme. Et pour ce faire aussi, on a une chance assez unique, c'est que le Muséum National d'Histoire Naturelle, et ce sont des lieux pour recevoir le public, mais ce sont aussi énormément de laboratoires et plusieurs centaines de chercheurs qui travaillent dans toutes les disciplines des sciences naturelles et des sciences humaines. Et donc, on peut apporter des faits. Et je crois que la position du Muséum National d'Histoire Naturelle, portée par son président, Bruno David, c'est aussi d'être plus engagé dans les débats de société et d'apporter notre regard d'expert. On n'est pas là pour dicter aux gens une conduite, ou on est là pour aider le politique ou les décideurs en leur apportant des faits objectifs, en constatant la perte de la biodiversité, l'extinction de telle espèce, les problèmes liés à la génétique et les questions éthiques, par exemple. On va apporter un regard de scientifique avec cette perspective aussi qui, je pense, est nécessaire, parce que parfois on ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui s'inscrivent dans une temporalité ou dans une dynamique. Pour moi, par exemple, le problème migratoire aujourd'hui, il ne faut pas le voir par le petit bout de la lorgnette, il faut l'inscrire dans une perspective beaucoup plus large. Si j'ai dit tout à l'heure qu'on était tous africains, on est aussi tous des migrants, absolument tous. Un jour ou l'autre, on a migré, et souvent, quand on fait notre généalogie ou notre analyse génétique, on va voir qu'on a des ancêtres, parfois, qui ne viennent pas du tout de ce qui aujourd'hui est le territoire de la France.
Merci André pour ces premières réponses. Si vous le voulez bien, on va faire une petite pause, puisque vous le savez, dans Complètement à l'Ouest, on aime bien s'ouvrir la tête, on aime bien aller voir ce qui se passe un peu dans le monde de la culture, et ce même si les musées et les cinémas restent malheureusement avec une porte close.
On
espère évidemment que ça reviendra vite à la normale. En tout cas, on vous a quand même concocté une petite sélection des coups de cœur. Ce sont les carnets de voyage.
Complètement à l'Ouest, carnet de voyage.
Et on va ouvrir ces carnets de voyage direction l'Est, en citant une fois de plus le centre Pompidou de Metz, musée qui a mis en ligne sa nouvelle expo qui s'appelle Chagall, le passeur de lumière. C'est une exposition qui s'inscrit dans le cadre des célébrations des 850 ans de la cathédrale de Metz, dont plusieurs vitraux ont été réalisés par Marc Chagall. Une exposition à admirer jusqu'au 15 mars 2021, et toutes les infos sont sur le site www.centrepompidou-metz.fr.
Allez, cette fois on part à l'ouest, plus à l'ouest, pour voir ou revoir une exposition qui s'était tenue dans un musée que notre invité connaît bien, puisqu'il s'agit du musée du Quai Branly à Paris. Il s'agit d'une plongée dans la civilisation Olmèque. Alors, comme chacun le sait, les Olmèques sont un ancien peuple précolombien. Je vois que notre invité acquiesce, qui s'est épanoui 2500 ans avant notre ère, au Mexique et le long de la côte pacifique. J'espère que c'est exact.
Absolument.
Et cette plongée dans la civilisation Olmèque peut désormais se visiter en 3 épisodes sur la chaîne YouTube du musée. Et c'est très bien. C'est très bien fait. youtube.com/ Quai Branly en un seul mot.
Attention Philippe, on n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui. Hein. Notre invité le repérera.
On sera vigilant.
Et puis, une fois n'est pas coutume, nous vous recommandons deux beaux livres à offrir ou à s'offrir à soi-même à quelques jours de Noël et en cette période de fête. Le premier, il s'appelle La belle histoire des merveilles de la Terre. C'est paru aux éditions de Book. Il est écrit par Gilles Chazot, qui est un géologue et un passionné d'histoire. 170 fiches largement illustrées. On y voit l'histoire de notre planète depuis sa naissance. C'était il y a 4,5 milliards d'années, ça ne nous rajeunit pas, jusqu'à nos jours. Évolution exploration de la vie, découverte des abysses, de la géologie, des volcans. Bref, c'est un peu Jules Verne, mais à la sauce 21e siècle.
Et puis, toujours chez ce même éditeur, il y a aussi un autre livre que nous vous recommandons, qui s'appelle « La belle histoire du cerveau ». Il s'agit d'un ouvrage écrit par un neuroscientifique, Jean-Pierre Rossi, passionné de vulgarisation. Et c'est un livre qui offre un panorama complet de la recherche cérébrale en rendant compte des découvertes les plus récentes, notamment l'imagerie cérébrale. Et à l'heure où l'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, le fait de parler de cerveau et d'intelligence humaine, cela fait aussi pas mal de bien.
Et puis Philippe, ces carnets de voyage, c'est aussi l'occasion de parler d'une initiative.
Oui, une initiative très intéressante développée par un groupement de 35 collectivités locales normandes autour, là encore une fois, période Covid oblige, autour d'un site internet consacré à l'impressionnisme, c'est www.normandie-impressionniste.fr. Et via ce site, il est possible de se tenir au courant de l'actualité de plusieurs musées à la fois, Vernon, Caen, Rouen et ou Le Havre, et de visiter virtuellement un grand nombre d'expositions qui ont toutes pour thème l'impressionnisme, vous l'avez compris. C'est une initiative régionale qui mérite vraiment d'être saluée. En étant un peu provocateur, je dirais que c'est presque du click and collect culturel. Click, ça c'est sûr, mais qui incite ensuite à aller sur place pour découvrir les œuvres physiquement, en vrai, quand les musées seront à nouveau ouverts.
Merci Philippe, un petit jingle et puis on sera de retour avec notre invité.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Et notre invité du jour, eh bien, c'est André Delpouech, qui est archéologue, anthropologue et qui est aussi, accessoirement, directeur du Musée de l'Homme. Sur l'Homme de demain, on voit poindre des projets assez fous. Le transhumanisme, notamment, qui consisterait à augmenter l'homme grâce à la technologie. Il y a des projets d'Elon Musk qui voudraient coupler le cerveau humain à un ordinateur. Drôle d'idée aussi. Quel regard portez-vous sur ces rêves qui placent, dans tous les cas, l'homme au centre de tout ?
C'est déjà une réalité, cet homme augmenté. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de notre prochaine exposition que nous appelons « Aux frontières de l'humain », où on va justement explorer un petit peu un certain nombre de nos limites qui sont en marche, si je puis dire. Et par exemple, cette exposition va avoir plusieurs sections et on s'est amusé exprès, un petit peu comme on avait parlé d'une exposition cette année sur la nourriture, sur l'alimentation. On avait dit « je mange, donc je suis ». On pourra peut-être en reparler sur en quoi...
On en avait parlé à cette émission.
En quoi manger est important et culturellement, c'est pas seulement se nourrir. Et la prochaine exposition, donc aux frontières de l'humain, aura plusieurs petits chapitres. On va d'abord dire « je suis un animal d'exception ». On en a un peu parlé tout à l'heure. Je suis un champion. On va voir un petit peu en quoi le sport et les champions aussi poussent les limites et parfois avec des choses étonnantes. Alors on pourra parler du dopage et de problèmes peut-être pas clairs, mais aussi comment l'handisport, par exemple, en amenant des gens avec des jambes artificielles qui peuvent courir aussi vite, voire plus vite ou sauter plus loin que des personnes. Il y aura ensuite « Je suis un mutant ». On parlera de la génétique. Et puis il y aura donc un chapitre « Je suis un cyborg » avant le dernier chapitre qui sera « Je suis immortel », où on questionnera notre possible immortalité. Et le fait est que l'homme augmenté, comme on peut l'appeler aussi, on l'oublie une chose, mais ça fait déjà longtemps qu'on a enclenché ce processus. Je porte des lunettes, en sage déjà, je suis augmenté. Mmh. Je porte des chaussures, on voit certains records, si j'ai bien compris, en athlétisme en ce moment, qui tombent et se posent la question des chaussures qu'ont les sprinteurs. Et effectivement, avec l'intelligence artificielle, moi j'observe aussi, c'est un peu mon métier, mais aussi en discutant avec les collègues, regardez à comment les smartphones ont changé notre vie. C'est déjà, alors pour le moment on l'a dans la main, mais je crois qu'on n'est peut-être pas loin à l'avoir sous la peau ou autre. Et déjà un smartphone, ça va vous permettre de vous guider, vous discutez avec quelqu'un, vous citez quelque chose, vous vous en rappelez plus, vous tapez son nom, vous avez aussitôt les informations.
Michel Serres disait qu'on avait externalisé notre mémoire.
Exactement, voilà, tout à fait. Donc c'est absolument ça. Et donc déjà on est dans ce processus-là, quoi. Alors après le problème, c'est un peu toutes les dérives qu'on interrogera aussi dans notre exposition, c'est cette course à la technologie nous est utile, nous sert pour beaucoup de choses, mais après, il faut voir aussi comment on en devient esclave. C'est vrai aussi, moi, je trouve intéressant aujourd'hui, dans cette époque de Covid, toute la réflexion qu'on va avoir sur le télétravail et sur le monde virtuel. Et là, comme musée, et toujours avec cette perspective, je dis toujours aux gens, moi je prends les paris, en ce moment il y a une espèce de mode aux réalités virtuelles, à la 3D, avec des casques, etc., etc. Je pense, on en reparlera dans quelques années, qu'à un moment donné, les gens seront ravis d'aller revoir une toile pour de vrai, un vrai silex taillé, et parce que sinon on va rester chez nous, il y a quelques films de science-fiction qui explorent ça, on sera des espèces de zombies sur notre canapé, on vivra au travers d'avatars ou de choses de ce genre-là, peut-être ça sera pas si bien que ça, quoi.
Alors justement, il y avait un paléontologue, je sais plus qui c'est, mais qui avait cette réflexion intéressante, qui disait, on a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Finalement, quel est le propre de l'homme ?
Ah ben c'est bien la grande inconnue qui est la trajectoire de notre espèce, hein, puisque quand on suit avec le regard justement d'un archéologue, d'un préhistorien, on voit, comme on l'évoquait tout à l'heure, notre naissance en Afrique, mais au départ, voilà, on est un primate parmi d'autres, mais on n'est pas les seuls, on va commencer à inventer des outils, bon, on va commencer à tailler des choses, mais après nous, on va développer cette technologie et cette main va nous servir grandement. On va découvrir le feu et s'en servir. Et c'est vrai qu'on va avoir un processus cumulatif de nos connaissances qui fait que on sort en quelque sorte de l'espèce animale qu'on était au départ. Et alors après, moi, on peut débattre sur tous ces sujets-là. Hein. Certains peuvent y voir l'œuvre d'une divinité ou d'un grand architecte. D'autres parlent de l'évolution. Peut-être que c'est des grands débats. Et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter et quand nous-mêmes étudions ces sociétés-là et qu'on se retrouve aujourd'hui derrière des écrans comme ça ou des ordinateurs, on se dit, avec notre cerveau effectivement et notre corps et nos petites maladies, nos petites misères du paléolithique, c'est complètement déconnecté. C'est d'où là peut-être certains rêves de transhumanisme où on pourrait s'affranchir en quelque sorte de notre enveloppe corporelle. Mais là, après, on touche à des débats sur la conscience et qu'est-ce que c'est que l'esprit qui vont très loin.
On poursuit dans quelques instants, mais avant, vous nous avez tendu la perche, André, tout à l'heure. Alors, on va le faire. On va faire une petite pause musicale, puisque vous nous avez parlé de Lucie et des Beatles. Eh bien, justement, sous forme de clin d'œil pour vous, André, et puisque nous voulions rendre hommage à Lucie, hein, cette jeune femme de 3,5 millions d'années, mais qui ne vieillit plus, et qui a été découverte le 24 novembre 1974 en Éthiopie. Eh bien, nous allons écouter Lucy in the Sky with Diamonds. C'est sorti dans les années 60, donc quand même bien avant cette découverte qui a évidemment été fondamentale pour la connaissance de l'histoire humaine. On la réécoute, c'est extrait de l'album qui s'appelle Sgt Pepper's et on revient juste après.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Philippe Boyer.
C'était les Beatles, vous les avez reconnus, Lucy in the Sky with Diamonds, et on est de retour en studio avec notre invité André Delpuech et avec Philippe Boyer, évidemment.
Alors le temps tourne et on a encore 1000 questions à poser à André Delpuech. Parmi ces dernières questions, il va falloir se résoudre bientôt à rendre l'antenne. Alors on voit qu'il y a des associations entre YouTube, Arte ou le CNC à travers notamment le programme Savoir et Culture. Est-ce que vous aussi vous réfléchissez ou avez déjà développé à des contenus culturels sous forme de chaînes vidéo et l'utilisation de plus en plus plus importantes, notamment du numérique.
Oui, bien sûr. Sur nos sites internet, on a déjà un tas de médias qui racontent, ou des podcasts, ou différents, sous différentes formes, toute l'histoire, parce que on a tellement de choses à raconter, on l'a entreaperçu au travers de nos sujets, et puis comme tout le monde, on s'adapte, et on a beaucoup de films, on a beaucoup de documentaires, aussi bien du passé, mais aussi toutes les découvertes actuelles. Donc non, on est très très présent là. La semaine prochaine, je vais enregistrer un certain nombre de choses avec France Culture, par exemple, sur l'histoire de certaines de nos collections, parce qu'aussi on a des belles histoires. Je pense que aussi c'est comme ça qu'on peut donner accès et goût aux gens à ce qu'on raconte. C'est aussi au travers des histoires souvent fabuleuses qu'il y a derrière. Il y a déjà des aventures humaines. On parlait de Lucy in the Sky et de ses collègues qui ont découvert ça. Lucy dans l'Est africain, c'est aussi des aventures. Ça fait rêver les gens, le métier d'archéologue. Et puis petit à petit, comme ça, on peut amener à débattre de choses plus graves ou plus sérieuses, mais tout en étant dans l'imagination et dans une forme de rêve sur ces histoires-là, quoi.
Alors, je voudrais pas terminer cette émission quand même sans revenir sur la programmation du Musée de l'Homme. Alors, évidemment, tout a été, chamboulé au cours de cette année 2020, mais quand même, il y a bien sûr la fameuse Galerie de l'Homme, mais votre programmation, c'est avant tout et surtout tout un tas de sujets très variés. Vous l'avez dit tout au long de cette émission. Je rappelle le dernier repas à Pompéi pour découvrir les vestiges alimentaires de cette époque. Et vous nous disiez que on sait tout sur l'alimentation des Romains. Il y a l'hommage aussi à un réseau de la résistance, le réseau du Musée de l'Homme, qui est une exposition toujours à l'affiche. En tout cas, on peut aussi la découvrir sur votre site internet. Il y a eu l'exposition sur l'alimentation et puis les futures expos, vous évoquiez sur le futur de l'homme avec notamment la présence de plus en plus présente du numérique. Rappelez-nous encore une fois le fil conducteur de cet éclectisme absolument total et fou. On se projette du passé en passant par le présent jusqu'à l'avenir.
Oui, c'est ce qui est passionnant dans le métier qu'on fait au travers de ce musée, c'est qu'on est très large, puisqu'on a cette folie de penser qu'on peut parler de l'humanité, des origines à nos jours et sur toute la surface de la planète. Plus sérieusement, la plupart de nos expositions ont un thème un peu commun qui est un petit peu autour de cette aventure humaine, de cet engagement. Quand on parle de la nourriture ou de l'alimentation, évidemment, on va parler de cette dimension culturelle. On va montrer en quoi la nourriture fait partie du religieux, fait partie de la gastronomie, fait partie de l'art de la table, de la diplomatie. Vous voyez, la résistance, c'était parce que les savants du Musée de l'Homme qui étudiaient les espèces humaines, et à l'époque, on parlait encore des races, les races humaines, en même temps, étaient profondément pour l'égalité des races, et donc ils étaient contre l'idéologie nazie. Et c'est à ce titre-là qu'ils sont devenus résistants. C'était au titre de l'abord de leur science anthropologique qui se cogner, si je puis dire, avec l'idéologie nazie. Et puis, dans ce que vous avez dit comme programmation, on va faire aussi des choses. La prochaine exposition, je ne sais pas si elle pourra ouvrir en temps et en heure, c'est le 3 février, ça sera sur le rire. On s'est dit qu'au printemps prochain, ça serait bien de faire une saison sur le rire. Alors, on dit aussi que le rire est le propre de l'homme. On pourrait en discuter, on sait qu'il y a un certain nombre d'animaux qui peuvent rire. Et là aussi, le rire, c'est à la fois pour détendre, pour sourire, mais aussi on peut évoquer le rire de résistance. Aussi comment au travers de la caricature, pour parler d'un sujet ô combien tragique et récent autour des caricatures de Charlie Hebdo, mais pour montrer aussi que le rire, c'est une manière aussi de combattre, c'est une manière de vie en société, de partage, et peut-être à cette époque de l'année aussi, c'est le moment aussi de rire, parce que même si en ce moment on est dans un moment tragique avec ce Covid qui perturbe complètement notre histoire et notre aventure humaine, on le traversera comme d'autres épreuves. Malheureusement, des gens décéderont, mais il faut aussi se rappeler que l'humain, par définition, il finit par mourir, comme toutes les espèces sur cette planète. Donc c'est aussi de devenir un peu philosophe, si on peut peut-être, comme mot de la fin, évoquer ça. C'est notre musée, on souhaite que ça soit un lieu où on puisse réfléchir, prendre un peu de recul, un peu de distance, relativiser et apprendre, parce que je crois que mieux on sait un petit peu l'environnement dans lequel on vit, mieux on comprend les humains qu'on côtoie, et je crois que mieux la planète se porte.
C'est une belle explication. On devrait peut-être rebaptiser le Musée de l'Homme et de la Philosophie, vu par André Delpech. Merci beaucoup, André Delpech, d'avoir été notre boussole pour cette émission passionnante. Je rappelle que vous êtes le directeur du Musée de l'Homme à Paris, place du Trocadéro. Ce musée devait rouvrir le 16 décembre dernier. Il le sera à coup sûr, il faut l'espérer, courant janvier. Ce sera l'occasion d'y aller seul ou en famille. Merci Johanna, merci à toute l'équipe de Radio Immo qui a œuvré à préparer cette émission. Et puisque puisque cette émission sera diffusée quelques jours avant Noël, nous vous souhaitons de très joyeuses et sereines fêtes de fin d'année. Et on se retrouve le mois prochain, nous serons en 2021 pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, cette émission peut être et pourra être réécoutée autant de fois que l'on veut, en podcast sur le site de l'émission, sur le site de Radio Imo et surtout les players de podcast, comme on dit. D'ici là, bon vent, cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Il est complètement fou ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.